Phil BM Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
C'est vendredi, il est 14h45 et c'est Christian Page qui s'amène pour nous parler de quoi? On commence avec quoi? La Pologne?
Ben, si tu veux, on commence avec la Pologne. D'abord, bon après-midi.
C'était triste, par exemple. Oui,
bon après-midi, Bernard.
Content de te retrouver toujours. Alors non, c'était triste ce qui s'est passé cette semaine. L'auto-da-fé, la destruction par le feu des livres.
Voilà. J'écoutais Luc Lavoie juste avant qui nous parlait souvent de commentaires ou de discours qui déraillent un peu.
Ouais,
et
ouais.
Là, on a un exemple assez frappant de ce dérapage. En fait, tu l'as mentionné, ça se passe dimanche dernier. Donc, ça se passe dans une petite paroisse de Gdansk, en Pologne, en danse qui est bien connue parce que on se rappelle à la fin du régime de Jaruzelski, c'était Lech Wałęsa. Voilà, c'était une transformation complète de la Pologne. Donc on est à Gdansk et dans cette petite paroisse qui s'appelle Notre-Dame Mère de l'Église, après l'homélie du dimanche, trois prêtres se sont réunis, parmi eux d'ailleurs un prêtre qui se définit comme un prêtre exorciste. Hein? Et ils avaient un prêtre exorciste et ils ont demandé aux paroissiens de réunir l'ensemble des ouvrages qu'ils avaient à la maison ou ailleurs, des ouvrages qui traitaient plus ou moins de sorcellerie, quelque chose qui avait un lien, semble-t-il, avec l'occulte. Alors, on a réuni sur la place publique tous ces ouvrages, plusieurs dizaines, sinon des centaines d'ouvrages, qui ont été brûlés publiquement, comme ça, devant les gens. Il y avait des enfants qui assistaient à ça. On avait même des chants, des cantiques religieux qui étaient chantés en même temps.
Okay. Est-ce que c'est une espèce de catholicisme intégriste, ça?
C'est l'Église catholique de Pologne. C'est sûr qu'on est ici en présence d'un groupement assez intégriste, mais on est quand même sous la bannière de l'Église catholique. D'ailleurs, l'Église catholique qui s'est retrouvée dans une situation un peu difficile suite à cet événement et qui a refusé de commenter la chose. Malgré que l'un d'entre eux a quand même déclaré que porter un col de prêtre n'empêchait pas la bêtise. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Et parmi ces ouvrages, qui est un peu étonnant, c'est qu'on avait bien sûr des traités de sorcellerie, des ouvrages de documentation sur l'occulte, des ouvrages qui faisaient ouvertement la promotion de la magie blanche ou la magie noire. Mais il y avait également des ouvrages de fiction, même des ouvrages qui s'adressent à un public jeunesse. Hein. Par exemple, on a brûlé les ouvrages de Harry Potter.
Ben voyons donc.
Je sais, ben là, ça paraît tout
pas
à fait.
Harry Potter, voyons donc.
Et voilà, parce que, bien sûr, il suffit de voir.
À cause de la magie?
Bien sûr, parce qu'il y a ce lien avec la magie et la sorcellerie. C'est de ne rien comprendre aux ouvrages de J.K. Rowling que de croire ça. Hein, parce qu'elle ne fait pas la promotion de quelques aspects occultes de la magie. Hein, il y a toute une sorte de dynamique derrière ça. C'est tout un univers qui a été créé dans lequel on retrouve des grandes valeurs qui sont véhiculées, l'amitié, la solidarité, tout ça. Donc, on brûle les ouvrages d'Harry Potter et tu comprendras que pour une certaine communauté intellectuelle, assister à un incident comme celui-là, ça rappelle des mauvais souvenirs. Et qui plus est des mauvais souvenirs en Pologne? Hein, il faut pas se le cacher, on se rappelle en 1933, c'est resté notoire dans l'histoire, lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne. Hitler, qui pour lui, le seul ouvrage qui était réellement dû, qui méritait d'être lu, était Mein Kampf. Alors, Hitler décide comme ça de brûler tous les ouvrages qui faisaient notamment la promotion du marxisme, qui faisaient la promotion de la paix et surtout les ouvrages dont les auteurs étaient des auteurs juifs. Donc on a vu passer au bûcher, on a vu passer les ouvrages de Carl Jung par exemple ou des ouvrages de Sigmund Freud. Donc tout ça devient comme invraisemblable et tu te dis et la Pologne, s'il y a un pays qui a particulièrement souffert du régime nazi, c'est bien la Pologne. Et là soudain on voit un incident comme ça se produire dans les rues de Gdansk, tu comprendras qu'il y a toute une espèce de communauté intellectuelle qui ont dénoncé ça à cri, en disant c'est quand même incroyable de voir des trucs comme ça. Et certains ont rappelé un ouvrage qui avait été écrit en 1821 par un auteur, Heinrich Heine, qui s'appelait Almanzor. Et dans Almanzor, Heine avait écrit « Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes ». Et c'était presque prophétique. On est en 1821 et 120 ans plus tard, c'est malheureusement ce qui s'est produit avec le régime nazi. Donc, voir ça en Pologne, c'est quelque chose d'inquiétant dans un pays qui a d'autant plus souffert du régime nazi, hein, de cette annexion avec le régime nazi. Et de voir ça aujourd'hui, on a l'impression, et que c'est mené par, c'est une action qui est menée par l'Église, on a l'impression de se retrouver en plein Moyen-Âge, de se retrouver à l'Inquisition. On met des livres à l'index, on les brûle sur la place publique. C'est tout à fait épouvantable.
Alors, d'ailleurs, je regardais, pendant qu'on se préparait, je regardais la définition d'autodafé. Alors, il y a l'action de détruire par le feu, mais il y a aussi une autre définition. Cérémonie où des hérétiques étaient condamnés au supplice du feu par l'Inquisition.
Voilà. Et on comprendra que donc l'imagerie, hein, l'image que l'on fait, ce lien que l'on fait entre le Moyen-Âge, l'Inquisition et ce qui s'est passé la semaine dernière en Pologne, évidemment, ce n'est pas un raccourci, c'est une définition tout à fait claire de ce qu'est l'autodafé. Et on peut justement se questionner dans un pays qui prône justement, qui se veut libéral, un pays qui prône les droits et libertés.
Qui a pris un virage conservateur ces dernières années.
Tout à fait raison.
Qui a pris un virage conservateur.
Malheureusement. Mais
on est en pleine régression. Écoute, je pense qu'on pourrait faire une petite analyse de l'émission, les trois heures qu'on aura passées ensemble. Il y a comme une espèce de fil conducteur, là. C'est quand même... C'est assez inquiétant, je trouve, parce que tu additionnes un certain nombre de choses, de déclarations, d'idées qu'on aurait cru farfelues il y a quelques années, qui reviennent en force, qui sont appuyées par un courant apparemment de plus en plus important dans l'opinion publique, notamment on a parlé du mouvement contre la vaccination, mais on peut parler de plein d'autres courants, Je trouve ça assez inquiétant. Je trouve ça assez inquiétant. Il y a une espèce de comment dire, il y a quelque chose dans l'air là.
Ouais.
Mettons qu'on s'éloigne des lumières, je trouve. Et on se rapproche d'un certain une sorte d'obscurantisme là.
Et tu as tout à fait raison, Bernard. Et c'est amusant que tu... En fait, tu me mets littéralement à la table pour ma prochaine nouvelle.
Ah, vas-y.
Et cette prochaine nouvelle, c'est une étude scientifique qui vient d'être publiée, qui a été publiée la semaine dernière, dans le Frontiers in Psychology. Donc, c'est un ouvrage qui traite de psychologie sociale. C'est un périodique scientifique. Et ce que ces gens-là ont fait, c'est une étude sociologique. En fait, c'est une méta-analyse d'un ensemble d'études qui ont été menées depuis la fin des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, qui parle de l'évolution des croyances dans le domaine des conspirations et du paranormal. Okay. On savait déjà, et moi-même, je le constatais lorsque je fais des conférences, je vois que les gens qui assistent aux conférences, très souvent là-dedans, on a les marginaux très croyants que j'appelle pas négativement, mais pour les désigner, je les appelle les paranormaleux. Donc, ce sont des gens qui adhèrent à toutes sortes de théories paranormales sans aucun sens critique. Ils y croient. Pour eux, c'est presque un état de religion. Et il y avait parmi ces paranormaleux, si je faisais une conférence sur les théories du complot, allant du World Trade Center à la vaccination que tu as mentionné, on voyait à peu près les mêmes têtes qui venaient à ces conférences. Donc, je pouvais, moi, sans être un scientifique, je pouvais quand même dire qu'il y avait un flirt entre les deux types d'idéologie. Donc, les théories du complot versus le paranormal. Et c'est exactement ce que vient de présenter cette étude, Frontiers in Psychology, cette méta-analyse, démontre très clairement qu'il y a un coulage d'une croyance à une autre, donc du paranormal vers les théories du complot. Mais ce qui est quand même surprenant et même inquiétant, c'est que ces croyances prennent un pas de plus en plus important, ce qui a 15 ou 20 ans était un phénomène absolument marginal, avec l'avènement des médias sociaux, devient de plus en plus répandu. De plus en plus de gens adhèrent aux théories du complot.
Mais c'est quoi, excuse-moi Christian, il me reste deux minutes, c'est quoi le rapport entre le paranormal puis le conspirationnisme?
On a à peu près le même type de personnalité. Les gens qui croient au paranormal, pour adhérer au paranormal, ont souvent tendance, par exemple, à dire les ovnis existent, mais le gouvernement nous cache la vérité. On diabolise les autorités. Les fantômes existent, mais les scientifiques sont aux côtés de la plaque. On va donc diaboliser le monde bien pensant. Les scientifiques sont dans l'erreur, les autorités nous cachent plein de choses. Donc, on développe une espèce de croyance, et je ne dis pas ça pour tous les gens du paranormal, mais on voit dans le paranormal cette espèce disons, d'adhésion à une forme de paranoïa. Hein, c'est le monde extérieur qui est dans l'erreur. Les scientifiques, les gouvernements, les autorités militaires. Et là, on est, tu l'as bien compris, dans l'antichambre des théories du complot où on retrouve exactement cette même paranoïa par rapport aux autorités, par rapport aux scientifiques, par rapport à ceux qui essaient d'expliquer des choses qui font tous partie d'un engrenage pour nous ramener dans un monde bien pensant, alors que eux, finalement, nous ramènent dans un obscurantisme qui est tout à fait déplorable.
C'est très intéressant. Ta dernière tirade, ton dernier 2 minutes, 1 minute 30, là, je vais te dire, là, c'est, je pense que tu es direct dedans, mon gars.
Je pense que
tu es direct dedans. Et ça s'appuie sur une expérience empirique.
Voilà,
c'est une étude empirique. C'est
oui, je l'ai vécu.
En quelque part, c'est ça, tu l'as vécu. C'est les observations que tu tires de l'ensemble des conférences, à les côtoyer et tout ça.
Oui.
Tu en viens à certaines conclusions. Très intéressant, Christian Page. Je te souhaite un bon week-end. Je te remercie. Merci à Maryse Duchesneau. Merci à Larry Dufresne. Merci à Alexandra Marcoux, ma super équipe. Merci à vous, les auditeurs. Vous êtes vraiment, vraiment géniaux. Et puis, ben, on prend un petit break en fin de semaine. Paul Samane. On se croise les doigts, ça prend un petit miracle pour sauver le Canadien, mais on sait jamais. À lundi!